peux déjà appeler tes chums. Après ce tailgate-là, ça va être une grosse soirée hockey. Let's go,
Let's go. Voici le tailgate.
BPM Sport.
Il est préparateur mental, conférencier, auteur, travaille avec plusieurs athlètes de haut niveau, olympien, olympienne, professionnel, tout ce que vous voulez. C'est notre ami Jean-François Ménard qui est avec nous. Comment ça va, JF?
Salut, JF.
Ça va très bien. Vous autres, ça va bien, boys?
Ça va super bien. Merci beaucoup. Écoute, on a tous pas été surpris, mais été touchés par cette nouvelle de la retraite de Michael Kingsbury, le King, qui avait connu une autre belle session aux Olympiques, si on veut, avec ses deux médailles, une d'or, une d'argent. Et écoute, qui a eu quoi, plus de 100 victoires en Coupe du Monde, des globes de cristal. Je ne sais même pas où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il est capable de mettre ça dans une maison, JF. Ça a été, en fin de semaine, son dernier championnat canadien au Mont-Saint-Sauveur. Ça fait tellement longtemps que tu travailles avec Michael Kingsbury. On a tellement de questions, mais d'abord, cette nouvelle-là de sa retraite, comment as-tu approché ça, toi, de ton côté?
Écoute, moi, ça faisait un petit bout, je le savais, parce qu'évidemment, Michael me l'avait partagé. Il avait déjà pris sa décision il y a un certain temps. Puis c'est sûr que, écoute, ça faisait 12 ans qu'on travaillait ensemble. On a fait 3 cycles olympiques ensemble depuis 2014. Donc, c'est quand même un moment extrêmement, extrêmement spécial parce qu'on parle de, tu sais, peut-être les gars, le meilleur athlète de tous les temps au Canada. Tu sais, si ce gars-là jouait au hockey ou il jouait au baseball, tu sais, on le compare souvent à Gretzky, à Tiger Woods. Écoute, je suis peut-être biaisé là, parce que je travaille avec puis je le connais bien, mais selon moi, il est au-dessus de ces gars-là. Quand tu parles de pourcentage de victoire puis de pouvoir performer sur demande comme il l'a fait pendant 17 ans, tu sais, c'est 17 ans dans un sport où est-ce que la plupart de ces athlètes-là sont pétés partout, là. Ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux. C'est un gars qui est quand même resté en santé pendant la majorité de sa carrière. Moi, ça va créer un grand vide, évidemment, dans ma vie. Michael et moi, on est très proches, fait qu'on va se côtoyer encore, mais c'est sûr que depuis coacher Michael sur les pentes, ça va être différent à l'avenir.
Tu dis que ça fait... vous avez fait 3 cycles olympiques ensemble, vous vous connaissez très, très bien. Tu es un... Tu sais, c'est sans contredit, un des artisans de tous ces succès, parce que la préparation physique, oui, c'est important. Rester en santé pour avoir ces succès-là, mais la préparation mentale en fait partie également. Quand tu as commencé à travailler avec lui, là, l'as-tu su tout de suite que tu dis, OK, lui, ce n'est un grand champion. Là. Ça va être un grand champion dans sa carrière, c'est sûr et certain.
Écoute, Michael, il me donne énormément de crédit pour ce que j'ai apporté dans sa carrière. Ce qu'il va jamais comprendre, c'est ce que lui m'a apporté à moi, à titre de préparateur mental. Parce que quand je l'ai rencontré, je me souviens les premières rencontres que j'ai eues avec lui dans mon bureau, j'étais émerveillé parce que c'était comme un grand livre de psychologie sportive sur deux pattes. Tu sais, il m'expliquait comment est-ce qu'il visualisait pour se préparer pour une compétition. Il parlait de comment est-ce qu'il faisait pour bâtir sa confiance. Tous des petits trucs qu'il utilisait pour être concentré. Puis je me disais, mon Dieu, il est même pas au courant, là. Mais moi, j'ai appris ça à l'université. Tu sais, puis c'était comme une version pratico-pratique de tout ce que j'avais appris. Donc, pour moi, mon rôle avec Michael, tu sais, il était déjà extrêmement fort mentalement lorsque je l'ai rencontré, mais il était quand même jeune. Tu sais, il était encore un petit peu immature, puis tu sais, il a beaucoup vieilli à travers ces années-là. Mais pour moi, c'était plus peaufiner ce qu'il faisait déjà très bien. Fait que si j'ai apporté un 5-10%, dans toutes les différentes habiletés psychologiques qui lui permettraient, tu sais, de vraiment rester au top. Parce que, tu sais, le fameux cliché, c'est facile de se rendre en haut, puis c'est difficile de rester en haut. Tu sais, moi, je l'ai vécu avec lui pendant 12 ans, là. Tu sais, lui, il avait une cible dans le dos à chaque compétition. C'est pas évident, là. Ça prend vraiment du travail. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais posé la question à Michael. J'aime ça poser des questions pour challenger ma clientèle. J'ai demandé, peux-tu me dire pourquoi t'es le meilleur au monde de tous les temps, tu sais, dans ton sport, mais peut-être un des meilleurs athlètes dans l'histoire du Canada. Puis tu sais, Michael, vous le connaissez, il est humble, il est très respectueux, puis tu savais pas trop quoi répondre. Je lui dis, dis-moi quelque chose. Il dit, ben écoute, JF, en toute franchise, moi je pense que je me couche le soir meilleur que quand je me suis levé le matin. Puis là, il m'a donné plein d'exemples. Il dit, tu sais, comme si je viens ici à une rencontre avec toi, ben je pars avec une petite stratégie de plus pour être plus confiant. Mais ça, c'est un petit 1% de plus. Ou si je vais au gym, j'arrive à lever un petit 5 livres de plus dans mon squat, ou faire une répétition de plus, mais je suis plus fort un petit peu plus, tu sais, ou dans un cas d'entraînement, si j'arrive à, tu sais, à plier mes genoux ou à positionner mes chevilles d'une certaine façon, un ou deux degrés de plus d'un certain angle, mais je peux skier la bosse un petit peu plus vite. C'était fascinant l'écouter parler, puis Écoutez, vous voyez, là, on a juste 10 minutes ensemble, là, mais je pourrais vous raconter des anecdotes pendant des heures de comment il était obsédé avec les détails. Puis, pour être un grand champion, une grande championne, c'est ça le secret.
Mais avais-tu déjà d'autres exemples d'athlètes qui étaient un peu comme Michael ou c'est la première fois que tu voyais ça, JF?
Écoute, j'en ai eu d'autres. C'est sûr que les années que j'ai passées avec Scott Moore et Tessa Virtue en patinage artistique, c'était semblable. C'est juste que c'est pas le même genre de sport. Maxence Parot aussi était comme ça en snowboard. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il est tout seul dans sa catégorie. Tu sais, je vais te donner un autre exemple. À un moment donné, j'ai fait un camp d'entraînement avec lui. Ça, c'était en 2015. Ça faisait à peu près un an et demi qu'on travaillait ensemble. Je suis allé à Zermatt, en Suisse. Pour ceux qui sont jamais allés là, je vous le conseille. C'est vraiment beau.
Magnifique.
Puis, on est au mois d'octobre. Puis là, il fait une séance sur la neige en fin matinée. Puis on finit autour de l'heure du lunch. Puis là, on débarque de la montagne. Puis là, il me dit, OK, je vais aller appeler mes parents. Je vais me faire un petit lunch. Je vais faire de la vidéo parce que toutes ces descentes étaient filmées. Je vais regarder mes descentes. Puis je vais prendre une sieste. Puis on va se rencontrer pour souper ce soir à 6h30. On avait une réservation à un restaurant de fondue. Fait que moi, je me présente à 6h15, 7h20. J'étais un gars qui est assez tôt. Fait que, il est 6h30, il est pas là. Il est 6h40, il est pas là. Il est 7h, il est pas là. Puis tu sais, il n'a pas tendance à être en retard. Puis moi, ça me gosse quand les gens sont en retard. Hein. Puis là, finalement, je me dis, OK, j'attends 5 minutes, puis s'il n'est pas là, je m'en vais. Puis là, il arrive en courant dans le restaurant. Puis là, à la Michael, il s'excuse, il se sent mal. Il dit, Jeff, je suis tellement désolé. Puis je dis, pourtant, qu'est-ce qui est arrivé? Ta sieste était très longue. Il dit, non, non, non. Il dit, je viens juste de finir d'écouter de la vidéo. Ça faisait 4 heures que j'écoutais de la vidéo, puis j'ai perdu le fil du temps. Fait tu sais, c'est ce genre de gars-là. Tu sais, à l'époque, il utilisait une petite règle transparente. Tu sais, les petites règles transparentes de 6 pouces qu'on utilisait, les gars, à l'école, là, dans le temps. Ben, il utilisait ça avec. Puis il regardait un iPad, puis il mettait la règle vis-à-vis son corps, s'assurer que l'angle était correct lorsqu'il skiait les bosses, puis l'angle était correct lorsqu'il faisait les sauts. Mais les vidéos, tu sais, il n'a pas fait 150 descentes, là. Il en a fait peut-être 13. Mais il les a regardés, puis il les a reculés, puis il les a regardés encore. Mais c'est ça, être un champion. C'est ça, être le meilleur dans son sport.
C'était comment ses derniers Olympiques, être avec lui? Il savait là, que c'était ses derniers Olympiques. Tu le savais, toi aussi, j'imagine, si vous étiez au courant qu'il prenait sa retraite un mois plus tard. Mais c'était comment de vivre cette médaille d'argent-là, puis sur sa dernière descente, aller chercher l'or aussi?
Écoute, ça a été un moment extraordinaire. C'était pas un secret, Michael. Il a géré une blessure toute la saison. Donc, le fait qu'il s'est présenté aux Jeux Olympiques, préparé comme il était et la façon qu'il a performé, c'est dans ses meilleures performances à la vie, dans les circonstances, là. Et puis, moi, ce qui m'a impressionné, les gars, c'est que, bon, vous avez vu qu'il a fini deuxième, puis la façon qu'il a fini deuxième, là, avec un score qui était égal avec l'Australien, puis que c'était la qualité des virages qui a déterminé qui gagne. C'était un moment extrêmement difficile à avaler, évidemment, parce que c'est un grand champion, puis que c'était tellement proche de gagner. Fait que ça, c'était le 12. Puis la compétition en parallèle était le 15. Il y avait juste un entraînement pour se préparer pour le 15, qui était le lendemain du 12, dès le matin du 13 février. Puis là, il y avait une pause le 14 parce que c'était les filles qui compétitionnaient. Puis ensuite, c'était les gars le 15. Je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer ce qui est arrivé le matin du 13, là. Tu sais, c'était difficile, évidemment, accepter ce qui est arrivé la journée d'avant. Il a passé du temps avec sa famille le soir au 12, puis de le voir, comment il s'est réveillé le 13 avec le feu dans les yeux, puis la façon qu'il a été pointu et pertinent et efficace dans son entraînement du 13, puis le voir travailler avec son entraîneur Michel Hamelin, je les ai jamais vus être bons et efficaces comme ça de ma vie. Puis c'était intéressant parce qu'on voyait justement tous les autres entraîneurs, les autres athlètes voir ce qui se passait sur la piste. Puis c'était comme wow, parce que tout le monde attendait voir comment il allait répondre. Parce que tout le monde le savait qu'il n'était pas content, il a fini deuxième. Il y avait Michael, puis il y avait les autres. C'était même pas proche. Puis je vous le dis, là, je le connais tellement bien. Quand j'ai vu cet entraînement-là, je savais qu'il allait gagner 15. Puis ça, mais on attend, il restait encore 2 jours, là. Mais il était tellement préparé, puis il avait tellement le feu dans les yeux, les autres n'avaient aucune chance.
Incroyable.
Fait que, puis tu sais, toutes ces histoires-là, je vous raconte, Michael m'a donné la permission de partager ça en passant, là, c'est des choses que les gens ont témoigné, là. Mais quel athlète, puis tu sais, faut se rappeler aussi que c'est dans un sport où est-ce que c'est performance sur demande, hein. Quand on parle de 100 victoires, tu sais, c'est pas juste une descente. Il faut qu'il fasse une qualif, ensuite une deuxième descente pour se qualifier pour la super finale. Fait que c'est 3 descentes dans une journée. Quand on parle de constance puis d'efficacité pendant si longtemps, ça va être dur à battre.
C'est vraiment impressionnant, Jean-François. Merci d'avoir partagé ces quelques anecdotes-là avec nous autres. On se reparlera à Michael certainement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais on tenait à t'avoir parce que tu fais partie de ces succès-là avec lui. On se reparle très bientôt, Jean-François Ménard. Merci beaucoup d'être passé dans le tailgate aujourd'hui.
Merci, Jeff.
Un plaisir, bonne journée.
Salut, bonne journée à toi aussi.